Bonjour. J'ai connu le père de Joseph en 1979. J'avais 16 ans et je l'ai connu par Marie-Josée Gandard-Chaumont, qui était ma prof de maths à Saint-Augustin-Louis, et par Vincent, un élève. Et on était ensemble en classe, en seconde première, à ce moment-là. Et ce qui m'a beaucoup attiré à la fraternité et à la JF de l'époque, c'était, deux choses principalement. C'était premièrement la ferveur de la liturgie. J'avais le sentiment d'être dans des célébrations denses, très très fortes, où l'ensemble de l'assemblée prie et c'était palpable. Et puis la deuxième chose, c'est la fraternité entre jeunes. Moi, je n'ai pas de frères et de sœurs dans ma famille. Et ce que j'ai découvert là, ce que j'ai trouvé, c'est des frères et des sœurs, garçons et filles, avec qui il y a eu cette relation fraternelle. Et donc, j'avais des copains, évidemment. Vincent est un copain de classe, il est devenu un frère. Et à ce moment-là, également, la parole de quelqu'un comme le père, cette façon de parler, de prêcher, etc., c'était assez, assez étonnant, et je crois que j'ai mis du temps à m'y faire, finalement. Parce que ça avait un côté impressionnant aussi, et du temps, encouragé par des gens de la fraternité à aller le voir personnellement, et de voir qu'il était presque pas le même quand il était devant une assemblée et qu'il parlait, avec sa fougue de capucin et d'alsacien, lorsqu'il était dans la rencontre personnelle, je peux dire que j'ai toujours trouvé en lui quelqu'un d'une extrême délicatesse et d'une extrême douceur avec moi. Il ne m'a jamais, jamais brusqué sur quoi que ce soit, mais a toujours accompagné mes cheminements divers et variés. Et du coup, j'ai découvert Saint-François dans le paquet cadeau. Et j'ai mis le temps à me rendre compte que c'était finalement la figure de Saint-François d'Assise qui, tout de suite après Jésus, était la figure déterminante de cette fraternité franciscaine. Pour ce qui est de la vocation sacerdotale, elle m'était venue par la bouche de Jean-Paul II, quand il était en France en 1980, et la JF avait été au Parc des Princes, moi non, parce que je révisais pour le bac français, donc j'avais regardé ça à la télé, et puis la vocation m'est venue par Jean-Paul II et par la télé. Le père, évidemment je m'en suis ouvert tout de suite après, il a calmé le jeu, il dit « bon ben, voilà, on garde ça, et puis on chemine, on verra bien. » Voilà, c'est pas d'affolement. Une parole qui m'a beaucoup frappé de lui quand il parlait du prêtre, il disait « un prêtre peut faire beaucoup de bien. » Un prêtre peut faire beaucoup de bien. Avec le ton qu'il avait à la fois doux et d'une parole qui pénètre. C'est très 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 étonnant, c'est cette façon qu'il avait des fois de dire certaines choses. Et moi je me disais, mais peut faire beaucoup de bien, d'accord, mais quoi comme bien? Évidemment, ça avait, on voyait bien que c'était dans, parce qu'il le vivait dans la relation personnelle, dans l'accompagnement, dans l'annonce de la parole. Et c'est certainement une des paroles qui m'a le plus encouragé à continuer à cultiver le désir d'être prêtre, c'est le désir de faire du bien. Il avait une très grande estime, aussi bien évidemment pour le sacerdoce que pour la vocation au mariage. Et ça, c'était très libérant pour moi, en l'occurrence. C'est-à-dire que il allait évidemment se réjouir si je continuais dans la voie du sacerdoce, mais je crois qu'il se serait réjoui aussi si à un moment donné j'avais embrayé la vocation familiale. Et du point de vue des JF, ça nous incitait à discerner notre vocation et ça nous incitait Et ça nous donnait une liberté de réponse à notre vocation. Et ça, j'ai toujours trouvé ça absolument fondamental. Et ça nous donnait la possibilité de garder le cœur en paix, de nous laisser le temps pour cheminer et pour discerner notre projet de vie. Un autre point que je voudrais développer, c'est ce qui me marque chez lui, c'était que la foi était vécue avec passion. Je parlais déjà de sa fougue, et ici je voudrais faire plusieurs aspects là, au moins trois. La foi vécue avec passion, c'était premièrement ce que j'appellerais une manière de prendre au sérieux les mots de la foi. Il considérait que ce que nous croyons, pas seulement l'existence de Dieu, mais l'amour de Dieu, la miséricorde, l'œuvre du salut, le salut accompli par le Christ, qui nous est reçu par la grâce, la foi en la grâce de Dieu, c'est évidemment invisible pour nous, mais c'est ça le réel. La réalité, c'est ça. La réalité est invisible. Et il insistait beaucoup là-dessus. Et non seulement il insistait, et chez lui, on sentait bien que ça n'avait pas l'effet simplement de marquer son esprit comme des concepts, même si on se dit conceptuellement que la foi ou la grâce, c'est la réalité, mais il en vivait de cette réalité. Et c'est le symbole de sa chambre, de son bureau. Ça, c'est ma télé. Et la réalité de la foi était symbolisée par l'entourage, les images qu'il avait dans sa chambre. Et la communion des saints, elle était symbolisée par sa chambre. Et il était dans le réel quand il se savait entouré des saints, de la grâce de Dieu. Et ça demande de réflexion, je dirais ça. Ça met le temps à faire son chemin. Et donc, si vous voulez, notre foi, les cheminements de notre foi, ça consiste à accueillir et sans cesse accueillir à nouveau frais la grâce de Dieu. La sainteté n'est pas au bout de nos efforts, la sainteté est une sanctification par l'œuvre de Dieu. Les mots de la foi, c'était aussi les mots de la liturgie. Et alors, il pouvait pas s'empêcher de commenter, il pouvait pas s'empêcher de nous faire redire et avec votre esprit, s'y trouver que notre réponse était un peu faible, quoi. Élevons notre cœur. Mes enfants, mais est-ce que vous le faites ? Et je me souviens aussi de certaines paroles du hymne, par exemple, du bréviaire. On disait les laudes, il était capable de s'arrêter sur une phrase. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? Par exemple. Et c'est parti pour 5 minutes sur qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi. Bon. Les mots de la liturgie, les mots de la théologie. Le Père n'était pas un théologien au sens spéculatif du mot. Il n'avait pas la fibre de chercher des mots, de définir les mots dans leur contour précis, ce qu'on fait dans le travail théologique. C'était pas sa fibre à lui. La fibre de la réflexion conceptuelle avec des concepts philosophiques poussés, c'était pas sa fibre. Il avait été formé dans les années 30 dans les catégories de la néoscolastique, c'est-à-dire la façon dont la théologie s'était conceptualisée au XVIe siècle, et c'est dans ces catégories-là que les religieux, les prêtres, les séminaristes ont été formés jusqu'au milieu du XXe siècle. Et il avait des habitudes de langage, il avait une façon de parler de la grâce, de parler des âmes, de ce qui est naturel et de ce qui est surnaturel, tout ça, qui sont les catégories de la néoscolastique. Et il était soucieux de notre formation théologique. Et ces formations-là, il les confiait, entre autres, à des dominicains, qu'il considérait comme des valeurs sûres, ceux qu'il faisait venir. Le père Marie-Dominique Philippe, et puis ça sera le père Schönborn. Donc, il avait le souci de former à la théologie de saint Thomas d'Aquin, qu'il y ait une valeur sûre dans l'histoire de l'Église, mais lui-même, son enseignement et sa fibre étaient spirituels. C'était son charisme à lui. C'était quelqu'un qui vivait la relation à Dieu et qui conduisait les autres dans cette relation. Mais évidemment, pour lui, la recherche théologique, alors moi j'ai été finalement lancé là-dedans, dans le travail théologique, dans ma vie de prêtre, mais la priorité était à la prière, et priorité à la vie spirituelle, primauté de la grâce. La recherche théologique et la réflexion sur la foi ne peut pas ne pas se faire au pied du Saint-Sacrement, au pied de la croix, en recevant d'abord la grâce, en vivant et en la réfléchissant ensuite. C'est ce qu'exprime aussi une des paroles de l'ordination sacerdotale. Au moment où on reçoit l'évangile, au moment où on reçoit le calice et la coupe et la patène, le pain et le vin, recevez l'offrande du peuple saint, vivez ce que vous aurez célébré, conformez-vous au mystère de la croix du Christ. C'est un programme. Et alors il avait aussi cette attention à dire nous avons besoin de raisons de croire. Et ces raisons de croire, il les réfléchissait à partir de son regard sur le monde et sur les événements du monde. Il avait cette réflexion. Alors, la néo-scolastique avait une vision très apologétique, c'est-à-dire réfléchir la foi pour montrer que la foi, c'est la vérité par rapport à un monde qui se fourvoie s'il ne se tourne pas vers Dieu. Donc, il avait cette orientation d'esprit-là, mais il visait à nous fortifier dans sa réflexion, parce qu'il savait très bien, et il nous le disait bien, que nous vivions dans le monde, que dans le monde la foi ne va pas de soi, et que la foi se réfléchit en lien, en dialogue avec ce monde, ou en réaction parfois, sans connotation péjorative sur nos réactions, mais au monde. Il s'agit de savoir quels sont les enjeux de la vie présente, et il lisait les journaux pour ça, la télé regardait un peu, pour ça, pour voir les enjeux de la vie du monde, et dans son bureau, pendant ces temps où il était aussi seul, et pendant ces temps de prière, on sentait bien qu'il réfléchissait aux enjeux d'être chrétien dans ce monde-ci. Et ça, c'est finalement une des missions de la théologie aussi, hein. Et voilà, donc il livrait un peu sa réflexion. Donc, la primauté de la grâce, pour le dire autrement, ça n'est pas une dispense à réfléchir et à réfléchir avec rationalité. Il avait le souci de la formation et à pousser la rationalité aussi loin que possible dans la réflexion. Il y a une forme d'anti-intellectualisme qui n'est pas compatible avec la foi dans le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, dans le Logos, la parole rationnelle. Donc il disait qu'il s'agissait d'avoir l'esprit critique, mais non pas un esprit de critique. L'esprit de critique, c'est celui qui dissout toute affirmation en faisant usage de la rationalité. Et là, on est très souvent dans cela, dans notre monde actuel. L'usage de la rationalité comme pour dissoudre un peu toute affirmation de choses à laquelle on peut croire. Ça, c'est l'esprit de critique, mais ça n'empêche pas d'avoir l'esprit critique. Donc il avait la raison humaine, beaucoup d'estime pour la raison humaine. Et la foi elle-même, la vie spirituelle, elle se réfléchit, mais la réflexion doit céder le passage à la grâce de Dieu. La grâce d'abord. mes yeux Dieu plus premier servi. Je répétais ça assez souvent. Et puis, par rapport à les mots de la foi, par rapport à la vie en Église, je dois dire que je cheminais comme séminariste, évidemment au séminaire et dans l'Église diocésaine, et je cheminais à la fraternité, à la JF. Et dans bien des cas, j'entendais des choses quasiment contradictoires. En écoutant le discours du Père, en écoutant ce que j'entendais, il y avait des choses qui ne concordaient pas nécessairement. Ou, si vous voulez, beaucoup des sensibilités qui s'exprimaient aussi sur un plan théologique, et où, entendant les deux, je ne savais pas quoi penser. Le Père nous disait, l'a priori toujours favorable au magistère, c'est évident. Donc j'intégrais cette affaire-là, mais je me suis toujours dit aussi que si d'autres personnes vouaient leur intelligence, qui était souvent très grande, parmi mes professeurs et autres, j'ai eu des gens très très brillants, si on considère qu'on a affaire à des gens très très brillants, qui ont voué leur vie à la réflexion théologique et voué leur vie au Christ par le sacerdoce, donc qui ont vécu à un moment donné une histoire d'amour avec le Seigneur jusqu'à se donner complètement et qui vouent leur intelligence à la réflexion de la foi, c'est que s'ils disent quelque chose, je peux ne pas comprendre, je peux ne pas être d'accord, je peux ne pas comprendre qu'on puisse avoir ce genre de position, mais ils ont sans doute leur raison. Et donc, dans mon fort interne, j'ai toujours eu tendance à me reporter du coup à l'Esprit-Saint, après tout. Si moi je ne vois pas clair, eh bien j'attendrai avant de m'exprimer sur tel ou tel sujet que l'Esprit-Saint ait, si possible, fait la lumière en moi. Et que se décante dans ma vie la conformité à la foi de l'Église qui sera celle qui me correspondra. C'est-à-dire qui sera celle qui correspondra à ma tournure d'esprit, à ma façon de prendre les choses. Et je crois que je n'ai jamais pu me résoudre à un discours de type perroquet, c'est-à-dire à reprendre les formules sans les avoir réfléchies et sans avoir mis un contenu précis dans certaines formules, qui correspond au travail que l'Esprit-Saint fait à sa façon d'incarner la foi dans ma vie et dans ma personnalité. Voilà. Je crois que c'est quelque chose que j'ai aussi reçu du Père Marie-Joseph, parce qu'on était inévitablement en présence avec lui de la foi de l'Église et de sa personnalité. De sa spiritualité franciscaine, de son terroir alsacien. C'était une personne unique à ce niveau-là. Et il avait une telle façon de vivre la foi avec sa personnalité que je crois que j'ai pris ça un peu aussi pour moi, de dire, même si le chemin de l'incarnation de la foi est long, c'est avec ma personnalité que je n'ai pas besoin de renier que je vivrai la foi et que je ferai mon itinéraire de sanctification progressive avec la grâce de Dieu, mais avec ma personnalité. Bon, et alors là, c'est à l'Esprit-Saint de faire. Voilà. Et mon regard sur le Père, le Père avait un regard sur tout, sur les personnes. Je suis assez persuadé, mais c'est purement intuitif, qu'il pensait beaucoup de choses qu'il ne disait pas. Et je suis assez persuadé qu'il faisait en lui une espèce de filtrage qui est de dire qu'est-ce qui va faire du bien à la personne et qu'est-ce que je lui dis pour que ça lui fasse du bien. Et je pense qu'il voyait un tas de choses et que par volonté ou par crainte de se tromper, il ne voulait pas courir le risque de se tromper et de mal conseiller les personnes. Et je pense qu'il avait, il avait son monde interne et son regard interne, enfin sa façon de dire les choses, et d'être très patient, d'attendre, lui aussi de laisser une opinion se faire. Mais je ne sais pas, je ne sais plus, au moins intuitif, peut-être que c'est une projection, je ne sais pas. En tout cas, une façon pour lui de prendre au sérieux l'itinéraire des personnes, c'est de les inciter à se poser les bonnes questions. Et il nous incitait à nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Et dans les catégories qui étaient les siennes, c'était la vie éternelle. C'était le salut éternel. Et ça fait penser à Matthieu 16, 26. Quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Mémorable quand... moi, je me souviens vraiment, hein, indélébile. Je ne sais plus si c'était Björn Borg qui gagnait le grand chelem de Roland Garros, titre du journal « Il entre dans la légende ». Alors là, « Il entre dans la légende », on y a eu droit à un office ou au début d'une célébration extraordinaire. Mais quelle légende! Qu'est-ce que c'est la légende? Mais qu'est-ce que c'est en comparaison avec la vie éternelle? Et comment peut-on compromettre son salut éternel si... etc. Enfin, voilà. Là, il ne supportait pas ce côté-là, hein, on dirait aujourd'hui bling-bling, clinquant, la mondanité, ce que le pape François appelle la mondanité. Ça, il ne supportait pas. Et je trouve qu'il y avait chez lui quelque chose où il se reconnaissait beaucoup chez saint Paul. Il y avait quelque chose de paulinien chez lui. Par exemple, Philippiens 3, 7, 8. « Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. » Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et il y avait ça. Quand il parlait de sa façon de faire les films, il disait « Moi aussi, j'aurais pu être un cinéaste. Mais non, quel est l'essentiel ?» Eh bien, et il nous citait aussi souvent le Père Kolb, qui voulait avoir les dernières rotatives de son temps pour imprimer le message de l'Immaculée, pour le mettre au service de la grâce de Dieu, de l'annonce de l'Évangile. Et le Père avait ça. Comme Paul, visiblement à travers les lettres, on voit que Paul est un type passionné, le Père était quelqu'un de passionné. Paul a fait une expérience personnelle de la rencontre du Christ sur le chemin de Damas, qui est sa référence constante, on le sent dans les lettres. Et le Père Marie-Joseph avait fait lui aussi cette rencontre avec le Christ, et c'était son expérience personnelle, était sa référence et le point de départ de cette fougue. Donc, si vous voulez, il y avait chez lui cette espèce de travail de discernement, cette relativisation du monde présent au regard du questionnement définitif, et en même temps, il y avait une estime de l'humanité et du monde présent qu'il fallait évangéliser. Et donc, cette estime pour le temps présent et pour la vie des personnes, la vie des baptisés, donc leur sanctification, ça passait par le respect du devoir d'État. C'est-à-dire que dans bien des cas, il conseillait aux personnes, eh bien, de donner la priorité à leur devoir d'État. Voilà. Si une mère de famille, parce qu'elle a la responsabilité de ses enfants et de sa famille, n'a pas le temps d'aller à la messe, eh bien, il fallait qu'elle s'occupe de sa famille. Et ça, c'est un exemple quasi-citation. Quasiment. Donc, le devoir d'État, c'était quelque chose d'extrêmement important pour lui. Et cette relativisation du monde présent au bénéfice de la vie éternelle n'allait pas avec un désengagement du monde. Et d'où pour la, son action, pour la famille, pour promouvoir les familles, d'où le souci qu'il avait de se former dans l'enseignement social de l'Église. Donc moi, j'ai découvert l'enseignement social de l'Église dans les week-ends qu'on faisait en classe de première. Ça a commencé, etc. Et puis, comme le Seigneur a la suite dans les idées, la première chose que j'ai enseignée par la suite, c'est l'enseignement social de l'Église, et je continue à le faire depuis tout ce temps. Donc voilà, un dernier point sur ce côté passionné pour les mots de la foi, ça a donné quelque chose de... qui est quelque chose à laquelle moi je tiens beaucoup, qui est l'idée que la foi, si par la foi et par l'action de la grâce de Dieu, nous sommes des êtres humains sauvés du péché, et que si c'est le péché qui est un foyer d'inhumanité en nous, de non-humanité, si notre humanité est sauvée par le Christ, eh bien nous devenons pleinement humains si nous sommes dans la grâce de Dieu. Qui dit sanctification dit aussi humanisation par la grâce de Dieu. Et je crois que nous sommes appelés, et le Père était un témoin, du fait qu'il était pleinement humain avec le travail de la grâce de Dieu en lui. À côté de ça, je voudrais faire état de son tempérament contemplatif à travers la musique, les mots de la foi à travers les chants, notamment ceux de Lucien Daïs. Une femme oublie-t-elle son enfant ? Moi, je ne t'oublierai jamais. Enfin, j'ai gravé. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Alors, il nous faisait chanter ce genre de choses. Et là, il vibrait avec ces paroles-là. Et puis, il avait l'humour aussi, l'humour taquin. Voilà. Et c'est aussi une façon pour lui de faire œuvre de pédagogie, d'avoir son humour. En matière de discernement, j'aurai encore peut-être deux points à aborder. En matière de discernement, Laurent en a parlé un petit peu. Il avait ce charisme de conseil qui fait penser au curé d'Ars, qui fait penser à Padre Pio, qui fait penser aussi à un certain nombre de starets du monastère, par exemple. Le plus connu, c'est Thomas. Donc, l'orthodoxie du 19e a développé des charismes de pères spirituels qu'on appelle les starets. Donc, c'était des gens où on faisait des kilomètres pour aller les voir, pour avoir une parole d'encouragement, de conseil, etc. Et le père avait ça à sa façon au pays de Beach. À Beach. Et son discernement était pratique, c'était du bon sens. Ajouté à la vie spirituelle. C'était là aussi quelque chose de l'ordre du bon sens et en même temps l'éclairage profond de la vie des saints. Et il se servait beaucoup d'épisodes de la vie des saints pour donner ses conseils, pour éclairer ce que nous en étions. Je ne peux pas ne pas, ce que nous étions en train de vivre, je ne peux pas ne pas reprendre ce qu'il disait de la question la plus redoutable qui m'a marqué aussi à vie. On a un projet, on lui expose notre projet. Pour qui le fais-tu ? Pas besoin d'en dire plus. Pour qui le fais-tu ? C'est-à-dire, si vous voulez, c'est la parole qui est le glaive, qui passe dans l'âme, qui traverse et qui sépare les pensées, qui fait la distinction entre les pensées. Est-ce que je le fais pour moi ? Pour mon propre retentissement, pour ma propre bonne conscience, est-ce que je le fais pour moi me rassurer? Est-ce que je fais quelque chose pour répondre à un appel du Seigneur à témoigner de son amour? Pour qui le fais-tu? C'était imparable comme façon de passer au crible du discernement nos projets, nos envies, nos façons d'être. Imparable. Voilà, le discernement se fait aussi par et en Église, c'est évident, c'est pour le père, c'est pas possible de penser autrement. Lui, c'était dans la communion des saints. Et donc, ceci par rapport à la tendance aujourd'hui, qui est très contemporaine, à faire son marché dans l'Église, y compris dans l'Église pour les chrétiens, c'est-à-dire dans l'Église il y a l'embarras du choix, c'est un supermarché très bien achalandé de tous les produits possibles et imaginables, et la tendance contemporaine ça serait à faire son petit marché, son petit caddie spirituel dans ce que l'Église propose, et le père était aux antipodes de ce genre d'attitude. Et là aussi c'est extrêmement touchant et bouleversant, et ça donne à penser chez lui, c'est que il était extrêmement conscient que son charisme était le charisme franciscain, et que ce charisme franciscain, il le recevait dans la tradition de l'Église et dans l'ordre franciscain. Il était extrêmement conscient de cela. Et à la suite de saint François, il n'a pas imaginé une seule seconde se mettre lui-même comme un écran à la grâce de Dieu et au charisme franciscain. Il ne l'a pas imaginé une seconde. C'était la dernière chose qu'il voulait. La situation que tu as faite disait ça aussi. Fuyez-moi si vous sentez que... Et donc, ça aussi, ça nous mettre dans la filialité à l'égard du Père Marie-Joseph, c'est aussi inévitablement nous mettre dans la filialité à l'égard de l'Église et de recevoir le charisme de tertiaire franciscain, des fraternités franciscaines qui sont issues de son ministère, de l'ordre franciscain, de l'Église et de l'Esprit. Nous n'avons pas d'autre alternative que de nous mettre à l'école de l'Esprit pour recevoir ce charisme dont nous sommes déjà gratifiés et qui est appelé à se développer. Le dernier point, pardon Damien, le dernier point que je voudrais développer, c'est son autre formule. Les saints ne se jalousent pas. Le père avait comme ça des formules, des aphorismes. Les saints ne se jalousent pas. Et là, je trouve aussi qu'on est en contact avec quelque chose qui est assez extraordinaire. Parce que le réflexe normal d'un mouvement d'église ou d'une spiritualité d'église normalement constituée, c'est d'aller voir les auteurs de cette spiritualité. Ça, c'est le réflexe normal. Quand on est tertiaire dominicain, on lit ce qu'écrit saint Dominique, on lit ce qu'écrit les théologiens dominicains. Quand on est franciscain, on va lire les franciscains. Et quand on est bénédictin, on lit la production bénédictine. Oui, mais voilà. Oui, mais voilà. Il y a cette communion des charismes chez lui. Et il a accueilli, il a été très tôt en lien avec la petite Thérèse, qui faisait le lien avec saint François, et pour lui, ça posait aucun problème. Et donc, l'échange des charismes, de ce que nous avons vécu avec Notre-Dame de Vie, charisme carmélitain, l'échange des charismes avec les dominicains, puisqu'ils ont enseigné. Et voilà, les saints ne se jalousent pas, ils considéraient que leur charisme était pour l'intégralité de l'Église, et donc aussi qu'on avait là un patrimoine spirituel dans lequel puiser. On a envie d'employer le mot très galvaudé d'ouverture. Bon, ok, d'accord, passons. Mais ça nous a, à son contact, élargi l'esprit à beaucoup de choses. Au point que nous avons peut-être du retard à rattraper pour ce qui est de la connaissance de la tradition franciscaine. Parce que lui, il l'avait, lui nous parlait de Bonaventure, il nous parlait de Don Scott, ça va, lui dans sa formation, il les avait fréquentés. Mais maintenant que nous avons les sources franciscaines, etc., je crois que nous sommes devant le défi de nous former dans la tradition franciscaine. Et parce que sinon, nous avons du mal parfois à nous rendre compte, comme lorsque nous rencontrons des franciscains d'autres fraternités, que ce soit dans les sessions, etc., nationales et autres, quand nous rencontrons, eh bien, si nous aurons du mal à voir que nous sommes de la même famille. Et nous sommes de la même famille. Le Père nous a mis dans la tradition franciscaine. Et donc, moi, il me semble que vraiment l'heure est venue pour nous de laisser se développer le charisme de fraternité que nous avons eu par le Père Marie-Joseph au sein de l'ordre franciscain avec quantité de frères et de sœurs. Cette année-ci, c'était une énorme joie pour nous. Enfin, cette année-ci, en 2016, c'était à Nancy, à la fraternité Bienheureuse Marguerite de Lorraine. C'était une énorme joie de célébrer la Saint-François avec la fraternité du Poverello de Nancy. Et Dieu sait que pendant des décennies, nous n'étions absolument pas sur la même longueur d'onde. Et quand je dis ça, c'est faible. Eh bien, les trois fraternités qui sont autour de Nancy, nous avons pu célébrer la Saint-François ensemble, dans une Eucharistie. Et un bon pique-nique après, parce que quand même, c'était une joie énorme. Et voilà. Et du coup, eh bien, quelque chose s'est ouvert, et avec cette perception possible que nous sommes de la même famille. Voilà, les saints ne se jalousent pas. Et c'est l'Esprit qui distribue dans l'Église les charismes qu'il veut. Et puis le charisme franciscain, il est tellement vaste et énorme que personne ne peut prétendre l'épuiser. Et il y a une multiplicité de facettes dans le charisme franciscain. Et si nous avons cette ouverture possible, si nous avons reçu du Père cette ouverture possible aux différents charismes des saints, et si nous en vivons, carmélitains, etc., ignatiens, nous avons là reçu de quoi être des foyers de communion. Des foyers de communion au sein de la tradition franciscaine, au sein de l'ordre franciscain séculier et d'ordre franciscain global, et au sein de notre monde qui en dehors de l'Église aujourd'hui peut proposer à notre monde une communion telle que celle que nous avons reçue parce qu'elle est manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.